Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy.
L'union libre ou le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Cette définition issue de la loi de 99 sur le pacte civil de solidarité précise les éléments constitutifs de la notion de concubinage et exclut les hypothèses de bigamie ou les relations à partenaires multiples. Ainsi, le concubinage implique l'existence d'une vie commune. La preuve du concubinage. Le concubinage étant une situation de fait, se pose la question de sa preuve. L'union libre se prouve par tout moyen, facture EDF, bail de logement établi aux deux noms, etc. Les certificats de concubinage sont délivrés par la mairie du lieu de résidence des deux concubins, vivant à la même adresse, accompagnés de deux témoins majeurs sans lien de parenté. Ils ne sont pas des actes d'état civil et n'ont donc pas de valeur probante particulière. Mais ce certificat de concubinage ou attestation d'union libre peut être demandé pour bénéficier d'une couverture sociale ou déterminer des avantages sociaux. Les effets du concubinage à l'égard du couple. À la différence du mariage, l'union libre n'entraîne aucune conséquence personnelle ou patrimoniale entre concubins. Concernant les effets personnels, il n'en existe pas au cours de la vie commune de droits ou d'obligations entre les concubins. Ainsi, ni l'infidélité, ni l'abandon entre concubins ne constituent une faute puisqu'ils ne sont pas tenus par un devoir de fidélité ou d'assistance. Concernant les effets patrimoniaux, le concubinage est une situation de fait échappant à tout statut légal. Il n'engendre aucun effet patrimonial, ce qui implique trois conséquences. Chaque concubin reste propriétaire des biens qui lui appartiennent, il n'y a pas de solidarité des dettes, et chaque concubin doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Une exception est à savoir. Les concubins ont la possibilité d'organiser leurs rapports patrimoniaux dans une convention de concubinage, mais cette convention ne pourra pas porter sur les rapports personnels entre concubins. Concernant les effets du concubinage à l'égard des créanciers, le créancier n'a pas de recours contre l'autre concubin. Toutefois, si les concubins ont souscrit un emprunt en commun ou se sont portés caution l'un de l'autre, ils restent engagés. Concernant la rupture du concubinage, le principe en la matière est que chacun des concubins peut à tout moment mettre fin à la vie de couple. En l'absence de tout lien reconnu par le droit, le concubinage peut être rompu librement. Ainsi, la rupture du concubinage ne constitue pas en elle-même une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts. En cas de désaccord entre les concubins lors de la rupture, c'est le droit commun qui s'applique. Ainsi, les concubins peuvent recourir à la responsabilité civile délictuelle en cas de faute dans la rupture du concubinage. Toutefois, le juge se montre strict dans l'appréciation de la faute et s'applique ainsi à préserver la liberté de rompre. De plus, il n'existe pas d'obligation alimentaire légale entre concubins. Toutefois, la jurisprudence admet qu'il existe à la charge du concubin qui rompt une obligation naturelle de ne pas laisser dans le besoin celui qui est abandonné. Concernant la liquidation des comptes entre concubins, par principe, chaque concubin reprend les biens dont il peut prouver qu'il est le propriétaire exclusif. La preuve se fait par tout moyen. Toutefois, lorsque les concubins ne peuvent pas apporter la preuve de la propriété personnelle du bien, celui-ci est réputé indivis par moitié. De plus, les concubins peuvent avoir contracté entre eux une société. À défaut de contrat, le mécanisme de la société créée de fait permet de liquider la situation des concubins quasiment sur le modèle de la communauté entre époux. En effet, elle implique de restituer à chacun ses apports respectifs, de payer le passif et de partager le bénéfice par moitié. Plusieurs questions peuvent se poser. Qui peut se maintenir dans le logement en cas de séparation? Il y a deux hypothèses. Lorsque les concubins sont cotitulaires du bail, le juge n'est pas compétent pour statuer sur la jouissance du logement. Le concubin qui quitte le logement peut délivrer congé au bailleur. Le concubin restant sera seul titulaire du bail. Toutefois, les dispositions du bail peuvent prévoir une clause de solidarité quant au paiement des loyers et des charges. Dans ce cas, la solidarité se maintient malgré la délivrance du congé par un concubin. Lorsque les concubins ne sont pas cotitulaires du bail, celui qui entend rester dans les lieux doit avoir conclu un contrat avec le propriétaire. Le titulaire du bail doit donc délivrer congé s'il entend partir. L'autre concubin doit conclure un nouveau contrat puisqu'il s'agit d'un changement de locataire. Autre question, quel juge compétent pour le partage des intérêts patrimoniaux des concubins ? Désormais, depuis 2009, le juge aux affaires familiales est non seulement compétent à l'égard des couples mariés, mais également à l'égard des couples concubins et des couples liés par un pax. Peut-on considérer que le statut d'ex-concubin est une circonstance aggravante en cas de violence ? Oui, en vertu de l'article 132-80 du Code pénal. Cependant, il faut rechercher si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Une autre question, quels sont les droits des concubins en termes de prestations sociales ? Le concubin à la charge de l'assuré social peut prétendre aux prestations de l'assurance maladie et maternité pour le remboursement des frais médicaux notamment. En cas de décès du concubin ayant l'autre à la charge, son capital décès reviendra au survivant, mais celui-ci ne bénéficiera pas d'allocation veuvage ou de retraite de réversion. Pour les prestations sociales versées sous conditions de ressources, comme le RSA, les ressources des deux membres du couple sont additionnées.
C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.